Chapitre 4. Les Moulins, juillet. À l'heure présente, tu as sans doute une grande partie de mon récit. Je le reprends toujours avec plaisir, il me rapproche de toi, de ton amitié vivante. Le résultat de ma conversation avec Madame de l'Étang a été de lui inspirer, ainsi qu'à son entourage, une recrudescence de politesse bienveillante. Catherine elle-même, soit que sa sœur agisse sur elle, soit pour une cause différente, Catherine s'est dégelée et cette détente rend nos rapports agréables et faciles. Après m'avoir avoué ingénument qu'elle me supposait encroûtée, mais que, voyant là une anomalie tellement incroyable, elle ne pouvait y croire, elle discute, elle attaque. Je ne serais pas étonné qu'elle songeât à me convertir aux idées dont je commence à débrouiller les chevaux. Le mot « idée » est trop précis. Je devrais dire un état d'âme, selon la formule consacrée. Je suis sorti de ma solitude et j'ai fait quelques visites dans le voisinage. Ce n'est pas sans un vif intérêt que j'ai revu ces intérieurs français où domine la dignité tranquille et le sentiment du devoir. Voilà ce qu'ignorent la plupart des étrangers, habitués à nous juger par leurs observations superficielles ou par nos romans malsains sur lesquels ils se jettent. Combien de fois l'avons-nous constaté ? Avec plus d'entrain et de plaisir que la bonne société française. J'ai rencontré un accueil sympathique, surtout chez Madame Sidoine, ma voisine immédiate. « J'ai connu, aimé votre famille, me dit-elle. Je suis heureuse de recevoir un de ses représentants, le dernier, je crois. »« Non, répondis-je, la branche des colonies est nombreuse, mais très disséminée. »« Vous ressemblez, me dit-elle, aux d'Hautefort qui ont habité les Moulins. » Je sais ce qui n'a rien d'étonnant, car des alliances ont eu lieu entre les deux branches. Madame Sidoine est une femme aimable, à l'esprit ouvert, cultivé, parfois brillant, au cœur tout occupé de ses enfants et petits-enfants. On sent en outre que les épreuves de la vie ont développé sa valeur morale dans le mouvement harmonieux de croyances élevées. Auprès d'elle, on est en repos, et je pense qu'à son âge, avec une nuance moins profonde ou moins affinée, Madame de l'Étang lui ressemblera. J'amenai la conversation sur Catherine. « La pauvre femme a été bien éprouvée, me dit-elle. Elle paraît avoir complètement dominé l'épreuve. Elle était trop jeune pour manquer de ressort. Elle a pris très vite le bon parti, celui de sortir d'elle-même par des occupations variées. « Son esprit est prompt, dis-je. Et vague aussi, je crains. » Elle passa si vite à un autre sujet que je ne pus insister. « Vous avez fait une conquête, m'a dit Catherine quelques jours plus tard. « Laquelle ? Celle de Madame Sidoine. Elle est bienveillante à tout le monde. Bienveillante, oui, mais il y a des nuances, ou plutôt des différences complètes dans sa bienveillance, qui n'a aucun caractère de banalité. Je suis heureux que sa sympathie réponde à la mienne. » Nous étions sur la terrasse. La soirée douce invitait à l'échange de pensées sérieuses, et, du reste, nous ne sommes plus 15 minutes ensemble sans que l'idée religieuse vienne à nous, au moins d'une façon détournée. Mais, depuis une réponse qui l'avait exaspérée, elle mettait de l'hésitation dans ses attaques. Ce même soir, elle fut plus résolue. « Ainsi, vous osez affirmer que je suis matérialiste, moi ? Je me garderai bien d'une affirmation aussi péremptoire. Vous me l'avez laissé entendre parce que je disais que Dieu est partout. N'est-ce pas du pur catéchisme ? Permettez, il n'est pas la fleur, l'arbre, le soleil. Et il m'a paru que la poésie de la nature impressionnait votre sens du beau, au point de vous la faire confondre avec la réalité divine. Le beau, le joli, le bon sont divins, c'est de toute évidence. C'est de toute évidence qu'ils découlent d'une source supérieure. Vous jouez sur les mots, dit-elle avec impatience. En aucune façon, puisque je ne confonds pas la cause et l'effet. En discutant avec elle, je ne m'explique pas ce qui a pu fausser une intelligence droite sur beaucoup de points, et déjà, sans le voir, aux antipodes de la foi qu'elle prétend avoir. J'en ai parlé à Madame Sidoine. « Je comprends votre étonnement, m'a-t-elle répondu. Cet état d'esprit tient au chagrin dont elle est guérie aujourd'hui, mais dont l'influence a été grande. » Il tient au manque de solidité de ses connaissances religieuses, un peu à un snobisme inconscient, beaucoup à l'influence d'une amie. Qui est cette amie ?
Vous la verrez prochainement, Catherine l'a invitée.
Pendant que, avec un vague malaise, je réfléchissais aux paroles de Madame Sidoine, elle reprit en souriant.
Si elle vous étonne, vous l'étonnez également. Elle est entourée de gens, ou peu chercheurs, ou acceptant le fait acquis pour des motifs plus ou moins élevés, comme son beau-frère par exemple. Or, les hommes comme lui sont nombreux. Catherine a beaucoup de dédain pour les croyances admises sans études.
Je la comprends, mais elle parle sans cesse comme une panthéiste et elle se dit catholique.
Elle vous dira que ses idées ne sont incompatibles avec aucune foi.
Mais vous définirez, en causant avec elle, ce que j'entrevois seulement.
Et selon vous, son esprit est-il assez faussé pour ne pouvoir revenir sur ses pas ?
S'il était naturellement faux, je vous dirais oui, mais je le crois simplement dévié. Ma conviction est donc qu'il peut se redresser. Sera-ce par le raisonnement ? Sera-ce par une nouvelle épreuve ? Nul ne le sait. Elle est essentiellement femme et...
Dieu merci ! M'écriai-je.
Soit, me répondit ma judicieuse interlocutrice, riant de la ferveur avec laquelle j'avais lancé mon exclamation.
Soit, mais alors ce qu'elle décore du nom de philosophie se réduit à des sensations reliées entre elles par des idées recueillies de côté et d'autre, idées qui plaisent à son imagination ou à son impression du moment.
À la suite de cette conversation, j'ai acheté différents livres que Catherine m'avait vantés.
Juillet. Quand je suis seule avec Madame de l'Étang, elle me parle de ma solitude trop grande et me témoigne un intérêt presque affectueux. Je n'aime pas le tête-à-tête avec elle. Malgré moi, je me sens guindée jusqu'au moment où, comme ce soir, une voix lointaine vient m'émouvoir. Elle a été à toi. Elle devrait être tienne encore. Tout ce bonheur usurpé ne devrait-il pas t'irriter ?
Non, il ne mérite plus, je ne la désire même pas. Mais en la regardant, je tombe dans une rêverie irrésistible. Que nous étions jeunes et enfants lorsque je partis plein de joyeuses espérances.
Et quelle belle matinée d'été ! Jamais, depuis, sans un tressaillement douloureux, je n'ai pu revoir l'épanouissement d'un beau matin. Nous marchions dans les allées sablées. On n'entendait que le son des douces paroles avec lesquelles j'essayais de consoler ma compagne avant de lui donner le baiser du départ. Elle me disait « Comment ferais-je pour vivre tant de mois sans vous ? C'est impossible, je suis sans force. »
Les affections d'une enfant de 17 ans ont des racines légères et ses chagrins se consolent aux premiers mots d'amour. Je me plongeais dans mes pensées pendant qu'elle me parlait avec l'aisance de la femme du monde qui sait manifester son intérêt sans indiscrétion, sans appuyer, d'un mot qui effleure et produit son effet salutaire. Elle est vraiment bonne, c'est dire qu'elle est intelligente. Sans intelligence, la réelle bonté n'existe pas. Elle n'est que partielle ou trop souvent maladroite. En sortant de ma rêverie, je m'aperçus que j'étais observée non seulement par Madame de l'Étang, mais encore par Catherine, qui s'était approchée sans bruit et qu'un signe de sa sœur avait sans doute averti de ma distraction. Elle riait aimablement.
« Le rêve est de tout âge, » dit Madame de l'Étang.
« Veuillez me pardonner, » répondis-je un peu confus.
« Il n'y a rien à pardonner, » s'écria Catherine. « J'aime quand un homme s'abandonne à son imagination. C'est une revanche pour nous, pauvres femmes, » si souvent accusée d'être gouvernée par la folle du logis.
Si elle savait, si elle connaissait le rêve, ou plutôt la réalité qui m'avait entraînée.
Août. Dans mes nouveaux rapports avec Catherine, l'attitude de M. l'Étang est curieuse. Sincèrement inquiet des tendances de sa belle-sœur, il ne perd aucune occasion de susciter des discussions. Moi, je ne suis pas de force à lutter parce qu'elle me jette à la tête des livres que je ne veux pas lire. Mais vous, c'est différent. D'abord, vous avez tout lu. Aussi, tenez bon.
Je tiendrai, soyez tranquille. Seulement, quel résultat espérez-vous de discussions nécessairement superficielles ?
En temps ordinaire, personne ne lui donne une riposte intelligente. C'est fâcheux. Il lui est alors facile de croire que ses idées sont toujours bonnes et deviennent le pivot inébranlable du monde. quand Catherine, prise dans un raisonnement, se dérobe, il se frotte les mains avec satisfaction. Dans cette faiblesse, elle me paraît plus charmante que jamais. La femme, sans l'inconséquence et l'illogicité qui la font vraiment femme, m'inspire une véritable antipathie. Je sais qu'on prétend découvrir dans ce sentiment masculin le désir, pour l'homme, de conserver une supériorité incontestable. Je verrai plutôt, dans ce fait, un certain ordre qui s'impose. Te rappelles-tu une Française que nous avons rencontrée il y a 5 ans au Caire? Elle est, je soupçonne, cette amie que Madame Hamas doit me présenter. Tu te souviens que nous avons causé avec elle toute une soirée et que la conversation devint sérieuse, bien que nos noms nous fussent inconnus. Cette étrangère parlait philosophie et s'avouait superstitieuse. Elle se disait catholique, mais étudiait et vantait les sciences occultes. Des phrases et des expressions de Catherine me la rappellent souvent. Août. Hier, comme je me promenais en lisant, M. de l'Étang et sa belle-sœur passèrent auprès de moi et firent arrêter la voiture. « Que lisez-vous ? » me dit Catherine. « Un traité grec, » répondis-je aussitôt. « Bien répondu, juste revanche, » dit M. de l'Étang en riant. Catherine avait rougi légèrement. « Le temps des défiances est passé, » dit-elle de bonne grâce. « Ah, vous me croyez capable de comprendre un traité sur les idées modernes ?»« Je me suis aperçu que vous en aviez beaucoup lu. »« Oui, avec mon ami, là-bas, dans nos plantations, nous avions formé une bibliothèque complète et très moderne, ce qui nous a permis de suivre le mouvement des idées. »« Toutefois ?»« Toutefois ?»« Permettez que je réserve à plus tard l'expression de ma pensée. »« Ah, je n'aime pas les réticences, » dit-elle vivement. » Elles sont quelquefois de la prudence. J'ai besoin d'observer encore pour tirer une conclusion. Vous allez avoir beau jeu pour observer, me dit M. de l'Étang d'un air narquois. De ce pas, nous allons chercher une intéressante amie de Catherine, une forte tête, je vous en réponds. Aimable manière d'en parler, dit Catherine avec humeur. Oh, je la trouve charmante, dit-il en clignant de l'œil. Hautefort jugera comme moi. Les chevaux partirent et je revins tout distrait chez moi. Le courrier m'y attendait. J'ai dévoré ta longue lettre. Si une chose pouvait me faire partir, c'était bien cette bouffée de notre plantation qui arrivait à moi par ton récit détaillé et vivant. C'est bien cette affection qui s'inquiète et me crie de rentrer auprès d'elle. Écoute la sagesse, la pensée clairvoyante d'un ami, me dis-tu. Mais ce n'est pas la sagesse qui m'a conduit ici. C'est un sentiment illogique et entraînant. Il me retiendra encore dans ce pays où tu prévois pour ton ami un nouveau chagrin, une nouvelle complication dans sa vie morale. Août. Avec un sérieux légèrement triomphant, Catherine m'a présenté à son amie, Madame de Théré. Nous nous reconnûmes immédiatement. « Que la vie est amusante avec ses hasards !» me dit-elle en me tendant la main comme à une ancienne connaissance. « Comment, vous vous connaissez ? » s'écria-t-on autour de nous. « Qui pouvait s'en douter ? » répondit Madame de Théré. « Nous nous sommes vus au Caire et j'ai tout de suite reconnu M. d'Hautefort, dont j'ignorais le nom. » Cette circonstance a rompu la glace et mis immédiatement un certain abandon dans nos rapports. Nous n'avons, il est vrai, abordé aucun sujet de discussion, malgré les malins efforts de M. de l'Étang, qui est venu au moulin le lendemain de grand matin. « J'arrive en cachette, me dit-il, pour vous prévenir des machinations qui se trament contre vous. » Peut-être les ai-je déjà devinées. 2 ou 3 fois, j'ai vu siffler les flèches. « Oui, et vous n'avez pas voulu les prendre au vol. Vous attendez. Toute la soirée, mon cher, vous avez été disséqué par Madame de Théré et Catherine. Vous n'imaginez pas quel petit volume se réduisent vos idées qu'on a résolu d'élargir. » Car après tout, on considère qu'il y a de l'étoffe intelligente en vous. Heureuse résolution qui doit vous être agréable, dis-je en riant. Ah oui, car si, en discutant, vous pouviez faire comprendre à Catherine que Madame de Théré, malgré son intelligence, est sans cesse en guerre avec le bon sens, vous me feriez grand plaisir. Nous verrons. La première escarmouche a eu lieu chez Madame Sidoine, qui me retint au moment où je me disposais à partir. Restez, je vous en prie. J'attends Catherine et son amie. Vous assisterez à un spectacle curieux.
Lequel ?
Celui des insinuations de Madame de Théré. Elle sait que je blâme ses tendances et toujours elle sollicite une discussion.
Elle voudrait vous amener à ses idées parce qu'elle tient à votre approbation.
Je le crois. C'est du reste une femme intelligente qui intéresse.
Je pourrais ajouter qu'elle est sympathique au premier abord. Elle a environ 50 ans. Elle est encore jolie, sobrement élégante, avec de la distinction extérieure et une physionomie intelligente. Il n'y a chez elle en apparence ni pose ni prétention. Elle s'exprime facilement et sa phrase n'est pas commune. Elle n'aborde pas de front les questions et très vite, cependant, on cause avec elle. Elle est instruite, elle a lu, voyagé et pendant sa conversation avec Madame Sidoine, je l'observais avec une extrême attention car elle m'intéresse à un double point de vue puisque son influence sur Catherine est réelle. Elle avançait sur un terrain mouvant avec l'espoir d'attirer Madame Sidoine dans une embûche. Mais l'esprit lucide et sain de cette charmante vieille femme évitait les pièges et embarrassait l'ennemi. Alors elle se tourna vers moi et parut charmée de passer en revue ses impressions de voyage avec un homme qui a parcouru tant de pays. « Combien, ajouta-t-elle, l'étude des races différentes rend tolérant. Comme on comprend bien cette belle doctrine de l'évolution qui permet d'admettre toutes les opinions. »
Vous voulez dire, répondis-je, que la tolérance doit présider à l'échange des pensées, et vous avez mille fois raison. Maintenant, philosophiquement et pratiquement parlant, il est impossible d'admettre toutes les opinions. Le blanc et le noir ne peuvent être qualifiés de la même manière.
On peut avoir des préférences, mais le blanc et le noir tiennent la même place dans la création.
Exemple, un acte de dévouement et un assassinat doivent être mis sur le même plan.
Ai-je dit cela ?
Mais, madame, répliquai-je en riant, vous le dites implicitement, car c'est la conséquence rigoureuse de votre affirmation.
Elle changea aussitôt de sujet, Catherine parut étonnée et Madame Sidoine me lança un regard reconnaissant.
Août. Cette première petite querelle a mis Madame de Théré en goût batailleur. Elle me recherche pour battre les buissons et me déclarer soudain sa foi catholique, tout en émettant, comme Catherine, les idées les plus contraires à cette foi. Il paraît que la confusion du pour et du contre s'appelle l'élargissement de la pensée. Nous avons lu, toi et moi, les rêveries des théosophes. Les idées de Madame de Théré en sont fortement teintées. Au fond, d'après elle, tout rentre dans les forces de la nature, lesquelles évoluent sans cesse pour marcher vers un progrès dont nous sommes les ouvriers nécessaires et divins. Qu'est-ce que le mal ? Un bien inconnu, car la Providence arrange admirablement toutes choses. Le Dieu de Madame de Théré étant le grand tout, la Providence dont elle parle sans cesse n'est, bien entendu, que le mouvement progressif de la nature. Du moindre fait résulte un bien qui, sans que nous nous en doutions, concourt au progrès général. Il s'ensuit qu'un optimisme, voulu ou réel, domine un état d'esprit dont ces quelques lignes analysent les points principaux. Enfin, se joint à ces idées un dilettantisme qui pourrait mener fort loin une femme jeune et passionnée. Son résultat moral pour Madame de Théré est un désir de jouissance qui s'étend aux plus petites choses. Elle recherche et analyse les satisfactions insignifiantes de chaque jour avec un raffinement qui va jusqu'à la sensualité et leur donne une importance en désaccord avec leurs proportions. C'est la conséquence fatale de ces idées. J'ajouterai la conséquence inconsciente, car elle éprouverait un grand étonnement si on lui affirmait qu'elle est purement et simplement matérialiste, quels que soient les sentiments présumés et les grandes phrases avec lesquelles elle se leurre. Elle se révolterait, et cependant rien n'est plus vrai. Sans doute, elle n'est pas grossièrement matérialiste et sensuelle, elle l'est à la façon affinée d'une femme honnête, intelligente et distinguée. Ce n'en est pas moins choquant, et je souffre de sentir Catherine sous une telle influence. Pourquoi cette souffrance ? Parce que rien de ce qui touche Catherine ne peut désormais m'être indifférent. Août. Une des caractéristiques de Madame de Théré est un orgueil poussé jusqu'à la naïveté. Naïveté qui provient de son insuffisante instruction. Elle a glané de différents côtés, et cela avec beaucoup d'intelligence. Mais elle qualifie de découverte des idées qui, il y a 2 ou 3 000 ans, ont inspiré la philosophie antique. Comme Catherine, elle emploie de grands mots dans le sens réel où l'application exacte lui échappe, parce que, n'ayant pas fait sa philosophie, son intelligence, quoique vive et assimilatrice, ne peut pénétrer le fond ni établir les différences essentielles. Il y a 2 jours, comme très malicieusement je rétablissais le sens réel d'un terme philosophique, elle m'a dit, non sans une pointe un peu acerbe, « Nous savons que les hommes se croient très supérieurs à nous. » Dieu nous garde de cette erreur, madame, mais nos études nous donnent plus de facilité pour remettre les choses au point, ce qui n'infirme en rien l'intelligence féminine. Et j'ajoutais, par allusion à une discussion précédente, quant à cette tendance qui consiste à regarder la vie comme un spectacle dont on ne tire que des éléments pour satisfaire la curiosité et le désir de la jouissance, il y a longtemps que, sortant du paganisme élégant d'un pétrone, elle est arrivée à nous sous le nom de dilettantisme en passant par la Renaissance pour s'épanouir dans l'intelligence ouverte des Françaises modernes. Elle a répondu, irritée, « Comme vous comprenez peu !» Le coup avait porté, car la riposte était de mince argumentation. Madame Sidoine est enchantée de nos joutes. « Vous n'imaginez pas, m'a-t-elle dit, vous qui arrivez de l'étranger, combien les rêveries d'un panthéisme imprécis charment les jeunes esprits. Est-ce donc courant ?»« Courant, ce serait aller trop loin, mais elles sont dans l'air ambiant. Propagées avec talent par des écrivains féminins franchement païens, elles s'infiltrent dans nos milieux, et telle femme, qui se révolterait si on lui disait qu'elle n'est pas catholique, n'en accepte pas moins comme une religion sérieuse la religiosité et les croyances équivoques de Madame de Théré. » La religiosité et les croyances équivoques des Madame de Théré. Le soir même, je fus vivement prise à partie et les phrases religieuses de mon adversaire abondèrent. Ce catholicisme si attaqué, je l'aime, déclara Madame de Théré. La religion est une poésie dont la destruction serait un crime, je me sens prête à me faire tuer pour elle. Ceci, je l'espère, éclairera M. d'Hautefort sur mes véritables sentiments. « Je suis parfaitement éclairée, » dis-je en riant. « Eh bien ?»« Eh bien, madame, quelle que soit votre affection pour le catholicisme, vous êtes surtout non-catholique. »« Par exemple, votre dernière affirmation suffirait pour le prouver. En effet, la religion, dans son sens général, n'est pas la poésie, mais la réalité. Elle n'est pas, dans son fond, une phase évolutive de l'humanité, elle est l'assise primordiale de la pensée et de la morale. » Quant au catholicisme, qui est l'expression la plus complète de la religion, laissez-moi vous dire que vous n'en avez pas une seule croyance. Oh, je permets tout, mais réserve mon opinion. J'ajoute qu'une affirmation n'est pas une preuve. Si je vous donnais la preuve, vous me traiteriez de pédant, dis-je en riant. Vous vous dérobez, s'écria-t-elle d'un ton triomphant. Allons, mon cher, me dit M. de l'Étang, vous ne pouvez pas reculer. Et personne ne vous accusera de pédantisme. Prouvons donc, dis-je en m'exécutant volontiers, car je pensais à Catherine. Le catholique croit à un Dieu personnel. Il croit à la responsabilité de l'homme, être faible, obscur, souvent coupable. Il établit une distinction radicale entre le bien et le mal. Il croit que la perfectibilité humaine réside dans une valeur acquise par l'effort, perfectibilité qui puise son inspiration et sa sanction dans un être parfait, réel et révélateur de la perfection. Or, selon vous, madame, la nature est Dieu, l'homme étant une parcelle de cette nature divinisée et divin lui-même. La perfectibilité est la marche de la création vers un inconnu qui s'appelle le progrès, terme générique très vague. Conduit par une force aveugle, l'homme n'est plus responsable, le bien et le mal sont identiques, ou plutôt, n'existent pas. C'est insensé, interrompit-elle vivement. Et voyez-vous dans mes paroles une pareille conclusion? Comment supposez-vous que je n'établisse aucune différence entre le bien et le mal? Si vous établissez une différence, vous êtes en contradiction avec votre système. Chez les instruments de la nature aveugle, il ne peut y avoir qu'une loi d'instinct. Catherine écoutait attentivement. M. de l'Étang était radieux, mais, avec finesse, il se gardait de dire un mot, dans la crainte d'ouvrir une porte de sortie à l'ennemi en l'attirant sur lui. « Et ces idées que vous avancez comme des vérités, comment me les prouverez-vous »« Quoi, dis-je, ai-je à donner les preuves de vérité chrétienne aussi rudimentaires à une catholique convaincue ?» Mon rôle consiste simplement à établir l'incompatibilité absolue entre ces vérités et vos idées. Les croyances catholiques, dit-elle avec vivacité, sont entrées dans une évolution générale, vous devriez le savoir. Elles n'y sont entrées que pour les esprits qui les ont rejetées, car l'évolution, telle que vous la comprenez, je ne dis pas telle qu'on peut la comprendre, en est la négation. Le contingent peut évoluer, le fond jamais. Madame de Théré se tira d'un mauvais pas par un moyen bien féminin. Bah, vous êtes un intransigeant, un rétrograde. Moi, j'ouvre ma porte à toute pensée nouvelle et intelligente. Comment, dis-je en souriant, un homme est-il rétrograde quand il affile vos propres armes pour vous combattre? Monsieur de l'Étang eut un malin sourire, car sa belle-sœur semblait mécontente des réponses de son amie. Avec son tact habituel, Madame de l'Étang fit diversion, et la conversation s'égara sur des riens pendant que M. de l'Étang m'entraînait sur la terrasse. « Parfait, mon cher, excellent. Les femmes ne voient jamais les conséquences des idées qu'elles acceptent. »« Elles ne les voient pas encore, soyez tranquille. Madame de Théré me considère comme un esprit fermé, c'est tout. »« Elle ne peut aller jusque-là, me dit-il avec humeur, bien qu'elle suinte l'orgueil, cette femme. En tout cas, Catherine a été touchée. Croyez-vous ? Son bon sens naturel est moins oblitéré que celui de son amie, et puis elle est franche. Si elle voit qu'elle s'est trompée, elle l'avouera. Je sors à cheval demain matin avec elle et ma fille. Trouvez-vous sur notre chemin et vous verrez si Catherine ne saisit pas l'occasion de questionner. Septembre. Je n'aurais eu garde de manquer à l'invitation de mon voisin, et ainsi qu'il avait prévu, Catherine partit en guerre. « Que pensez-vous de mon ami ? » me dit-elle à brûle-pourpoint. « Beaucoup de bien, » répondis-je sans hésiter. « Vraiment, cependant, vous ne vous entendez sur rien. Je n'en apprécie pas moins ses qualités et sa distinction, puis je crois que beaucoup de souffrances l'ont conduite à son désordre d'esprit. Ceci me rend très indulgent. « Désordre d'esprit ? » répéta-t-elle scandalisée. « Et pourquoi votre supposition sur sa souffrance ?» Ma supposition est le résultat de certaines observations et parce que, la plupart du temps, les idées de Madame de Théré sont simplement les impressions d'un esprit inquiet, peut-être d'un cœur malade. On n'arrive pas à l'âge de mon amie sans avoir souffert, mais aujourd'hui, elle est dans la paix, heureux résultat de son désordre d'esprit. Ne nous fâchons pas, dis-je en riant, et permettez-moi d'être un peu sceptique au sujet de cette paix présumée. Elle serait cependant la conséquence naturelle du système optimiste de Madame de Théré, si ce système n'était en contradiction quotidienne avec les heurts de la vie. Vous appréciez bien peu une belle intelligence. Intelligence vivante, mouvementée, ouverte, mais la plus illogique que j'ai rencontrée. Opinion de l'orgueil masculin, me dit Catherine avec dédain. Vous ne pouvez nier, cependant, que deux termes contradictoires sont pour elle identiques. Vous me direz, il est vrai, que dans ce fait, il y a une logique à rebours, puisque tout résultant de la nature, tout a droit à la même place. Et je serai de cet avis, l'absurde ayant sa rigueur. Enfin, si nous sommes les pantins de forces inconscientes, pourquoi Madame de Théré parle-t-elle sans cesse de pardon, de bonté, d'élévation de sentiments ? Ces termes n'ont plus aucun sens réel, puisqu'ils n'existent que dans notre imagination, laquelle elle-même n'est rien. Elle a le droit de parler d'élévation de sentiments, me dit Catherine vivement, car les siens sont élevés. En théorie, je ne dis pas le contraire, et cette théorie vient d'un fond chrétien que les matérialistes eux-mêmes ne peuvent détruire. C'est ce qui les rend si incohérents et si contradictoires. Comment ne le comprenez-vous pas ? Je ne le comprends pas, parce que ni mon ami ni moi ne sommes athées et matérialistes, comme vous voulez nous le persuader. Catholiques nous sommes, catholiques nous resterons. Ne vous blessez pas de ma franchise, puisque vous-même vous la provoquez, dis-je doucement. En ce qui vous concerne, je crois seulement que votre jeunesse se leurre avec la poésie du panthéisme, avec de vagues rêveries, avec l'apparente générosité d'une soi-disant largeur d'esprit qui ne recouvre que des cendres. Est-ce l'émotion contenue de ma réponse, est-ce la réponse elle-même qui la fit rougir et l'impressionna? Cependant, elle se borda à me dire assez sèchement « Vous parliez de théorie, chez mon ami, tout n'est pas théorique. Elle est bonne en action. » « C'est très possible. »« Comment très possible? Doutez-vous de mes paroles ?»« Nullement. Un esprit faussé n'entraîne pas nécessairement le cœur avec lui, surtout quand il s'agit d'une femme. »« Ah, permettez, » continuai-je en répondant à un geste de mécontentement. Vous m'avez attiré en observateur et j'use de mon droit en observant. Vous me pardonnerez si, sur plus d'un point, mes lunettes diffèrent des vôtres. » Elle cravacha son cheval et partit brusquement pour rejoindre sa nièce qui galopait devant nous. « Ah, elle est furieuse !» me dit M. de l'Étang, qui n'avait entendu que ma dernière phrase. « Je crains d'être allé trop loin, » pensai-je tout haut. « Non, non, soyez hardi. Catherine cédera à un mouvement de révolte, mais aimera votre hardiesse. Maintenant que je démêle des idées qui étaient obscures pour moi, je suis exaspérée que Catherine soit si liée avec Madame de Théré. C'est encore une anomalie qu'un homme attaché par un raisonnement très terre-à-terre à sa religion tienne de façon extrême à ce que les siens ne s'écartent pas de cette religion. Mais je vis au milieu d'inconséquences que nous ne connaissons plus, toi et moi, et dont l'observation attiserait la verve d'un satirique. Nous n'eûmes pas le loisir de revenir sur un sujet sérieux, et notre promenade s'acheva en paix. En passant devant une maison de garde, je me suis rappelé que j'ai omis de te parler du brave homme qui l'habite. Jadis, il m'aimait passionnément. Bon cavalier, il m'avait donné mes premières leçons d'équitation et nous chassions ensemble. Depuis mon arrivée, je me suis plu à le revoir, à évoquer des souvenirs dans lesquels mon nom revient fréquemment. Il m'a raconté ma propre histoire. « Pauvre Monsieur Gabriel » a-t-il répété plusieurs fois. Il y a pour moi beaucoup de saveur à me sentir encore vivant dans le cœur de cet excellent homme que j'ai soigné pour une plaie assez grave qu'il avait à la jambe. Depuis sa guérison, il m'évite, et en passant devant lui, ce matin, si j'avais été seul, je lui aurais demandé des explications. Je le saluai seulement d'un geste et d'un sourire. À notre grand étonnement, nous le vîmes pâlir et chanceler comme un homme étourdi. « Qu'avez-vous, mon brave ? » dit M. de l'Étang en s'arrêtant brusquement. « Rien, monsieur, rien ! Je me suis senti une douleur au cœur. C'est passé. »« Est-ce vraiment passé ? » demandai-je. « Voulez-vous que je vous examine ? Je suis bon médecin, vous savez. »« Inutile, monsieur, inutile !» Il salua légèrement et entra presque en courant dans le hallier. « Il a peur de vous, une peur horrible, » me dit M. de l'Étang en riant. « Il vous considère comme un sorcier. »« Bah, est-ce donc ma réputation ?»« Je crois bien, et vous avez si promptement guéri la plaie d'Olivier que rien ne fera revenir nos intelligents paysans sur vos talents, plus ou moins surnaturel. » En écoutant M. de l'Étang, je me rappelais que j'avais été étonné de l'insistance avec laquelle, pendant que je le soignais, le vieux garde m'observait. Je rapprochai ce souvenir du petit incident qui venait d'arriver, et une soudaine inquiétude me fit pâlir. Olivier est un homme plein de bon sens, relativement instruit. Je suis parfaitement certain qu'il ne croit point à la sorcellerie. « Soupçonne-t-il donc mon identité ?